Boah, ça va? Ouais. On avait un peu chaud. Ouais, je pense que il faudrait baisser les stores.
Et on peut faire un peu une fenêtre quelque part parce qu'il y a le bruit comme ça.
Si vous voulez, si ça ou mettre le clim un peu. Ouais.
Je pense que c'est la meilleure solution.
Bien. Vous avez à côté de vous, dans l'ordre de culte, à la fin, le plan du message. Je ne sais pas si vous voulez suivre ça. C'est plus important que vous preniez la petite feuille qui est à l'intérieur, parce que vous avez là tous les versets que je vais lire. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans une série d'études sur les proverbes. Et Dieu, dans son amour, nous donne la sagesse pour vivre. Nous avons terriblement besoin de cette sagesse. Dans les semaines à venir, nous allons voir ce que Dieu nous dit dans ce livre au sujet des amitiés, l'argent, le travail, l'éducation des enfants, le mariage, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous commençons les sujets particuliers avec un sujet un peu plus vaste qui est le cœur. Vous pouvez déjà voir, je vais pas lire tous les versets dans les proverbes sur le cœur, mais vous voyez qu'il y en a. Ne vous effrayez pas, j'ai lu tous ces versets en 6 minutes pour m'assurer que ce que je vais tenter est possible. Donc je vais pas les commenter, mais nous allons nous familiariser avec ce que Dieu veut nous faire comprendre sur le cœur humain. Et donc, on va se lancer tout de suite. Premier point. L'état de ton cœur est plus important que toute autre chose te concernant. L'état de ton cœur. Maintenant, il faut d'abord demander c'est quoi le cœur. Nous allons parler du cœur dans le sens biblique et ce n'est pas l'organe cardiovasculaire. Vous pouvez bien vous douter. Nous parlons de ce siège dans votre personne intérieure, ce siège de vos pensées, de vos désirs, de vos motivations, de vos intentions, de vos mobiles. Il y a en vous un siège central. C'est le cœur, c'est vous-même dans un sens. Et pensez avec moi juste un moment au sujet des quelques facettes du cœur. C'est quelque chose que les hommes ne pensent presque jamais à cela. On est tellement axé sur l'extérieur. On est tellement axé sur non seulement l'apparence, mais le comportement extérieur. Et nous allons voir que la Bible a une manière toute différente de voir la vie humaine et que ce qui compte, ce n'est pas ton comportement. Ton comportement extérieur peut être génial. Et au-dedans, il peut régner cette abomination. Non, donc nous voulons comprendre le cœur. Et d'abord, le cœur, c'est l'endroit où réside la confiance. Vous fonctionnez constamment avec les autres, n'est-ce pas? Vous êtes en relation avec les hommes, les femmes, les voisins, la famille, peut-être avec Dieu. Et tout cela dépend de la confiance. Si vous avez confiance en quelqu'un, vous liez une relation de plus en plus proche. Si vous n'avez pas de confiance, vous ne le faites pas. Mais c'est le cœur qui se confie ou qui se méfie. Pour des raisons qui sont propres au cœur, parfois des bonnes raisons, parfois des mauvaises raisons, parfois des envies, des jalousies, des erreurs de pensée, des orgueils. Le cœur est compliqué, mais le cœur est le siège de la confiance. Nous lisons dans le premier verset que vous avez là, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » C'est le cœur qui se confie, mais aussi avec les âmes. Le deuxième verset dit « Le cœur, en parlant de la femme excellente, le cœur de son mari a confiance en elle. » Le cœur de... Il y a des gens qui ont un cœur fondamentalement méfiant. Vous avez connu des gens comme ça? Ou bien il y a des gens qui se confient trop facilement. Ils sont un peu naïfs dans leur cœur. Encore, le cœur, c'est le siège de vos désirs et de vos espoirs. Alors, votre vie est conduite par des désirs. Nous sommes tellement ignorants de nos cœurs que nous ne sommes même pas au courant parfois que nous avons plein de désirs. Au travail, on a peut-être le désir de plaire. Peut-être c'est un désir qui est tellement grand. Bon, j'ai besoin de plaire. Et mon cœur, c'est presque une idole. Je dois plaire. Ça, c'est quelque chose qui est profond et qui est dans le cœur. Ou bien peut-être dans mon cœur règne une autre chose, l'ambition. J'ai envie dans le cœur. Ça ne me quitte jamais. J'ai envie d'être premier. Il y a des gens comme ça. C'est une facette du cœur. Ou bien, vous pouvez avoir un désir de richesse, de choses. Et c'est ça qui vous mène, qui vous conduit, qui vous oriente, qui fait de vous un peu ce que vous êtes. Vous voyez? Qu'est-ce qui est dans le cœur? Qu'est-ce qui est prédominant? Encore, votre cœur ou ton cœur, c'est le siège de où tu as une attitude soit d'ouverture ou d'étroitesse vis-à-vis de ce qu'on dit de toi. Regardez dans les passages, le numéro 3. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Il y a des gens qui ont leur cœur incliné vers l'écoute. Ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre des autres. Et ils veulent non seulement apprendre des faits, mais ils veulent qu'ils sont ouverts à ce que les autres disent d'eux-mêmes. Ou ce que Dieu dit d'eux-mêmes. Et ça les rend complètement différents de la plupart des gens sur la terre. Mais la plupart de nous, naturellement, nous sommes... La dernière chose qu'on veut, c'est qu'on nous critique. La dernière chose. Parce que dans le cœur, il y a une défense, il y a une envie de se voir correct, parfait, bien. Et on a envie de se justifier. Encore, nous pourrions parler d'autres aspects, mais vous pouvez voir que ce qui est dans votre cœur est vachement important. C'est pour cela que dans le verset numéro 4, nous lisons ceci, c'est un des deux versets les plus importants que je vais vous lire aujourd'hui. « Garde ton cœur, dit Dieu, à toi et à toi et à toi, garde ton cœur. » Plus que toute autre chose, ou une autre version, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, ou les issues de la vie. Donc, ton cœur et ce qui se passe là-dedans va déterminer tout dans ta vie. Comment va ton mariage? Comment vont tes amitiés? Comment va ton destin éternel? Comment tu es lorsque le malheur frappe? Si tu as un cœur craintif ou si tu as un cœur qui se confie en l'éternel Dieu, ainsi de suite. Donc, nous pouvons voir que maintenant, le comportement extérieur est peu de choses par rapport au cœur. Regardez le verset 5. « Car il est comme les pensées de son âme. » On est en train de parler de l'homme méchant. « Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Tu es avec quelqu'un qui t'accueille à bras ouverts, qui de sa bouche et de son comportement extérieur est très avec toi. « Mange et bois !» Mais à l'intérieur, là où tu ne peux pas voir, il y a des attitudes de haine, de jalousie, de méfiance vis-à-vis de toi. Son cœur n'est pas avec toi. C'est un peu comme... Donc vous voyez, je le lis à cause de cette différence entre le comportement extérieur et le cœur à l'intérieur. C'est un peu comme le garçon, son papa lui a dit, parce qu'il se tenait sur sa chaise constamment au souper, et son papa lui a dit, « Assieds-toi et mange, sinon je te donne une fessée. » Et enfin, après un long moment, il s'est assis. Il a commencé à manger, et puis il a regardé son papa, il a dit, « Je suis assis à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis debout. » C'est très intéressant, cette phrase, parce que c'est exact. On peut, dans le comportement extérieur, être une chose, alors qu'à l'intérieur, on est exactement le contraire. Juste une petite parenthèse, si vous éduquez vos enfants seulement pour avoir le bon comportement extérieur, pour manager qu'ils soient assis, et vous ne les éduquez vis-à-vis de l'attitude intérieure, vous faites un désastre. Vous pouvez arriver à le faire asseoir. Mais si vous ne faites jamais rien vis-à-vis de cette attitude qui est là, vous n'avez pas l'éduqué. Vous avez simplement mené cet enfant à un comportement complètement hypocrite comparé à son attitude intérieure. Ferme la parenthèse. Nous arrivons au deuxième point du message. Nous avons dit dans ce premier point que l'état de ton cœur, c'est la chose la plus importante te concernant. Deuxième chose, de ton cœur viennent les destins de ta vie. Donc nous avons mentionné cela et nous voulons explorer un peu pourquoi le sage inspiré par Dieu dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie ou les issues de la vie ». D'abord, parce que l'attitude de ton cœur détermine en grande mesure ton état émotionnel. Nous lisons dans le sixième passage, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Avez-vous vu un homme ou une femme abattu? Pierre et moi, nous sommes en train de rendre visite à une famille en ce moment dont une des personnes est complètement abattue. Et elle nous dit sans cesse qu'elle s'inquiète. Et nous voyons que ce verset est ô combien vrai. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Deuxième passage. Un cœur joyeux, je crois que je vais sauter ça, je reviendrai vers le 6, je vais vous lire le 8. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le 9e verset un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Dans une église où j'étais pasteur, il y avait un jeune homme qui était dans une dépression. Il était sous traitement. Il n'allait pas bien du tout. Et vous savez, la source de cette dépression, c'est qu'il affectionnait une fille et cette fille l'a refusée. Et donc, il avait tellement fait grandir dans le cœur, dans son cœur, un espoir. Faites attention à la manière dont vous gérez vos espoirs. On peut s'attacher à un truc, ça doit arriver, n'est-ce pas? Et ne pas tenir ça avec des mains assez souples, parce que c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas? Mais si on a un espoir, ça doit arriver. Si la chose n'arrive pas, souvent c'est là qu'on a une personne complètement plongée dans la déprime, dans la dépression. Un espoir différé. C'est le cas d'Élie, le prophète. Il espérait tant que sa victoire sur les faux prophètes allait tout changer. Et quand ça ne s'est pas passé comme ça, il a été plongé dans la dépression. Donc, nous voyons que l'état de notre cœur, nos espoirs, nos inquiétudes, notre confiance ou manque de confiance va ensuite créer des états émotionnels qui vont vraiment nous rendre malades ou être très, très bien pour nous. Mais aussi, les attitudes de ton cœur influent sur la santé de ton corps. On le sait bien maintenant, on le dit souvent, mais la Bible le disait il y a des millénaires. Le 10e passage dit « Un cœur calme est la vie du corps ». Regardez bien, un cœur, c'est-à-dire ses attitudes intérieures, un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. L'envie dans le cœur, une personne rongée par l'envie, va avoir des répercussions physiques souvent. Et je reviens vers le 7e passage. Un cœur joyeux est un bon remède physique, mais un esprit abattu dessèche les os. Le cœur a donc son importance, son influence immense sur ta santé physique. Encore, et dernièrement sur ce point, les attitudes de ton corps seront souvent le facteur déterminant entre ton succès ou ton échec dans la vie. Dans beaucoup de domaines, que ce soit le travail ou la famille ou autre. Regardez quelques versets. D'abord, l'orgueil. Verset 11. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Mais l'humilité précède la gloire. Il y a aux États-Unis en ce moment une course vers l'élection présidentielle. Et un des candidats est un homme d'affaires, un des hommes les plus riches du monde, et des plus puissants du monde. Il n'a jamais été politicien, mais il était en tête de son parti. Mais je ne suis pas prophète, mais je prophétise que ça ne va pas être lui. Que sa compagne va complètement tomber à l'eau à cause d'une chose, l'orgueil. Cet homme incroyablement puissant et bien connu dans le monde entier, à cause de l'orgueil, est extrêmement arrogant et parle avec mépris au sujet des autres candidats. Et parle de manière exagérée de ce qu'il, lui, il peut faire que personne d'autre ne peut faire. Et cet orgueil est déjà en train de dégoûter la population américaine. Et je pense que ça va mener à sa ruine. Mais sa ruine va venir d'une attitude de cœur. Parce qu'il serait peut-être le meilleur candidat au niveau de ses compétences. Mais au niveau de son caractère et l'état de son cœur, il va tout gâcher. Un autre exemple, un cœur borné. Je vais appeler ça un cœur borné. Je ne sais pas si vous avez un cœur borné, mais le 12e passage dit au sujet d'un homme qui a gâché sa vie, on avertit qu'il écoute la sagesse afin de ne pas devoir dire à la fin de ta vie et que tu ne dises, donc à la fin de ta vie, « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Et je connais tant de gens, même parfois dans le ministère chrétien, même des pasteurs parfois, qui ont gâché, qui ont perdu leur ministère à cause de cette raison. Un cœur qui dédaigne la réprimande, qui ne peut pas accepter la critique. Ou bien un cœur immoral. Je peux vous citer, et vous pouvez penser à de personnages bien connus en France qui ont gâché leur vie à cause de l'immoralité du cœur qui est sorti inévitablement dans la conduite. Certains, un des plus grands hommes politiques de la France, a vécu des déboires incroyables à cause de cela. Verset 13, ne parlons de la femme fatale, ne la convoite pas dans ton cœur pour ta beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. On se réduit à un morceau de pain. La ruine vient. Mais tout cela a commencé où? Dans le cœur. L'adultère commence où, chers hommes? L'adultère commence dans le cœur, par certains désirs qu'on ne met pas à mort, par certaines pensées qu'on entretient et on enflamme. Et puis ça passe à l'acte. Ou bien, vous pouvez penser à un homme qui ruine sa vie parce qu'il est pervers, non pas dans le sens sexuel, mais dans le sens de la méchanceté. Regardez le verset 14. L'homme pervers, l'homme inique marche dans la fausseté de sa bouche, c'est un menteur. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Ainsi, sa ruine arrivera-t-il subitement. Vous connaissez quelqu'un, je pense à la mairie d'une ville où une dame qui travaillait au secrétariat est arrivée à sa ruine, elle a perdu son travail, elle a été virée, mais pourquoi? À cause de ce verset. Et ce comportement était à cause des attitudes du cœur qui faisaient qu'elle était quelqu'un qui excitait constamment des querelles. Je crois que je vais sauter les autres pour arriver au troisième point. Seul Dieu sonde et voit tout ce qui est dans ton cœur et celui des autres. Nous avons vu que ton cœur est vachement important, que tu dois comprendre pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Pourquoi est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je m'enthousiasme pour ça et pas pour ça? Pourquoi est-ce que je suis tellement inquiet dans telle situation? On regarde, on veille sur son cœur, on essaie de comprendre. Les issues sont tellement graves. Mais nous devons savoir que sans l'aide de Dieu et sa sagesse, nous ne pouvons pas comprendre même en partie notre cœur. Il faut une illumination où Dieu nous montre le tréfonds de nous et nous voyons, « Ouh là là, je ne me voyais pas toutes ces années, je ne comprenais pas. » Que j'étais comme ça. Donc, d'abord, pensons aux autres, ce qui se passe dans le cœur d'un autre nous échappe le plus souvent. Le 17e verset dit, « Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. » Quand quelqu'un est triste au sujet de quelque chose qui était pour lui grave, tu peux compatir, mais tu ne peux pas comprendre la profondeur du chagrin d'un parent qui a perdu un enfant ou d'une personne qui a eu un malheur, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose que nous ne pouvons pas aller voir et saisir complètement dans le cœur d'un autre. Ça doit nous rendre un peu réservés et modestes dans la manière dont nous pensons aux autres. Le 19e verset. Les cieux dans leur hauteur et la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. On ne peut pas comprendre pourquoi le roi, le gouverneur, ou même vous et moi, pourquoi on fait certaines choses. Pourquoi on est comme on est. Parfois, 25 ans plus tard, le mari va enfin comprendre quelque chose de crucial qui a toujours été dans le cœur de sa femme. Mais il n'a pas compris, tout en vivant avec elle, de la manière la plus intime. C'est-à-dire l'homme pervers, prend une voie douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Oui, on n'a aucune idée parfois de ce qui est dans le cœur d'un autre. Et ça doit nous mener à avoir aussi, par rapport aux hommes de ce monde, une certaine prudence, sans être cynique. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Si tu es intelligent, tu sais qu'il y a des attitudes profondes, des mobiles, des intentions, des choses que même une personne ne sait pas elle-même. Et avec la sagesse de Dieu, on peut arriver à puiser, à faire venir à la surface pour comprendre à la personne elle-même et à vous, donc le fonctionnement de quelqu'un. En partie, mais jamais complètement. Jamais complètement. Mais ce n'est pas seulement au sujet des autres que le cœur est trop profond pour cerner, même ton propre cœur. 22. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. C'est vraiment intéressant. Je pense que il y a là quelque chose d'incroyable dans ce verset. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux. Mais je fais ça parce que non, tu ne sais pas complètement pourquoi tu as fait ça. Dieu sait ce qui est dans ton cœur, parce que une chose que mon cœur fait, c'est de me tromper moi-même. Ça, c'est une des étrangetés du cœur humain. On appelle ça en psychologie le déni, n'est-ce pas? Le déni. Que moi-même, je ne sais plus pourquoi je ne veux pas avouer telle chose ou écouter telle chose. Mais il y a un espoir parce que Dieu voit, comprend et sonde notre cœur entièrement. 23. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, c'est-à-dire nus devant l'Éternel, combien plus les cœurs des humains. Ça veut dire que ton cœur est exposé dans ses profondeurs, devant l'Éternel Dieu tout le temps. Ça, c'est à la fois effrayant, si on n'est pas avec lui, et réconfortant, si on est à lui. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Et 25, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'essayer de cacher ton cœur. Parce que une chose est sûre, c'est que Dieu lit ton cœur complètement et tout le temps. Quand j'étais au lycée, j'avais un très bon ami qui m'a dit un jour que son petit frère, quand il mentait, les parents le savaient toujours. Ils savaient toujours. Vous savez pourquoi? Parce que quand le petit frère mentait, il disait « Non, papa, j'étais pas là ». Il croisait les bras, il tapait les bras, il tapait son pied. Tout le monde pouvait lire son cœur. Mais Dieu lit ton cœur dans tout ce qu'il contient, tout le temps, comme ça. C'est pas la peine de cacher. Il vaut mieux tout exposer devant l'Éternel Dieu et dire, tu sais comment je suis. Une chose avant de passer au dernier point, puisque Dieu seul connaît ton cœur à fond, c'est avec Dieu seul que tu peux avoir une relation le plus intime, la plus intime. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez que dans la mesure où un autre ne comprend pas ton cœur, il ne te comprend pas et sa relation avec toi est superficielle, n'est-ce pas? Et même ma femme ne peut pas comprendre mon cœur complètement parce que j'arrive à le cacher souvent d'elle et à me le cacher. Mais la personne avec qui je peux être la plus intime, qui peut être la plus intime avec moi, c'est mon Dieu qui m'a fait et qui voit tout. Quatrièmement, Dieu seul peut changer ton cœur. Je vais sauter jusqu'au verset 29. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Même le roi, même Nebuchadnezzar, un des plus grands empereurs de l'Antiquité, Dieu a incliné son cœur, complètement changé le cœur de cet homme. Vous pouvez lire à ce sujet en Daniel. Cet homme hautain et arrogant a été humilié par Dieu et rendu humble dans son cœur. Le penchant de son cœur, le penchant fondamental a été changé. Il est devenu un autre homme. Parce que quand ton cœur change dans sa partie fondamentale, tu es quelqu'un d'autre. Au fil de ma vie chrétienne, j'ai vu de nombreuses personnes changer complètement. Et oui, on aurait pu dire, mais c'est une toute nouvelle personne. Avant, elle était vraiment hautaine, complètement égoïste, centrée sur elle-même, et elle n'est plus du tout comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le cœur, les mobiles, les intentions, les désirs, la manière de voir, de se voir, était complètement changée. Et donc la personne est une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, parce que c'est Christ qui change de cette manière, il est une nouvelle créature. Et ainsi, la Bible promet, et c'est la bonne nouvelle que Dieu nous annonce, et je tire vers la fin, chers amis, je vais vous garder juste deux ou trois minutes encore. Écoutez ceci, parce qu'il faut que je vous laisse avec cette bonne nouvelle. Dieu avait promis ceci. Voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront, donc dans leur cœur, mon peuple. Leur cœur sera à moi. À cause de quelque chose que Dieu lui-même et Dieu seul peut faire. Parce que le cœur qui est mort envers Dieu est mort. Vous ne pouvez pas changer ça. Mais la Bible vous annonce cette bonne nouvelle que Dieu vient vers vous et il dit « Je peux changer votre cœur. » Dans son envie principale, qui n'est peut-être pas vers Dieu, je peux vous ouvrir le cœur pour que Dieu et son amour et son pardon et sa grâce pour vous tel que vous êtes, celui qui a donné son fils, qui a donné son cœur, véritablement, le premier. Dieu peut faire en sorte que votre cœur s'incline vers ce Dieu d'amour infini. Et ça veut dire que la toute dernière chose que nous devons savoir, et c'est le dernier point, très court, un seul verset, le verset le plus important pour garder peut-être le verset 30. Mon fils, donne-moi ton cœur. Les amis, la Bible nous enseigne que l'homme est une créature qui a un cœur à donner. Voilà une dame un jour qui a dit à son mari, quand le mariage n'allait pas si bien que cela, elle lui a dit, parce qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, et la femme a dit, c'est simplement que je sens que je n'ai pas de place dans ton cœur. Il n'y a pas de place pour moi dans ton cœur. C'est pas que tu me détestes. Vous voyez? Nous avons un cœur à donner. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient vers nous parce que Il nous donne son cœur en Christ. Nous avons une place dans son cœur. Et il dit maintenant, donne-moi ton cœur. Nous allons chanter. Nikki, si tu peux chercher Anne pour le piano. Veuillez trouver le numéro 16 dans le carnet noir. Chantons les grâces sans mélange. Les grâces du Dieu qui veut de notre cœur et qui a donné son cœur à nous en Christ sur la croix. Le numéro 16 dans le carnet noir. Pardon Anne, j'ai mal débuté. Ok, vas-y encore. Oui. Chantons grâce en mélange, chantons sans cesse la grandeur du Christ, c'est digne de louange et de gloire et d'honneur. Nous sommes et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ainsi désormais rien ne lie notre âme à ce bas lieu. Céleste est notre perspective, la foi contemple Christ là-haut. Il est le chef, de lui dérive pour nous tout un monde nouveau. Désolé, il faut que nous pratiquions celui-là un peu plus. Je vais juste prononcer la bénédiction et nous finirons ainsi notre culte. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.